Bonjour à tous, jeudi 19 novembre, bienvenue sur France Inter pour une journée spéciale confinée mais solidaire. France Inter ouvre son antenne aujourd'hui à 5 grandes associations caritatives, le Secours Populaire, les Restos du Cœur, la Banque Alimentaire, le Secours Catholique et ATD Quart Monde, invités à témoigner de la fragilisation des populations les plus précaires de notre pays. On en parlera à 7h15 dans le Zoom avec ce reportage à 3. Aux côtés de ceux qui ont basculé dans la pauvreté suite à la crise du Covid. 8h20, grand entretien, Léa, avec la présidente du Secours catholique, Véronique Fayet, le président des Restos du Cœur, Patrice Blanc, et la chanteuse Olivia Ruiz. Elle est marraine du Secours populaire depuis 15 ans. Vous aurez largement la parole. Vos questions au 01 45 24 7000. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
Les autres titres.
Quelle immunité pour les anciens malades du Covid? Au moins 6 mois, estime une étude qui vient de paraître. Éviter une troisième vague, celle de la santé mentale des jeunes. L'inquiétude ce matin d'Olivier Véran. Un gros plan sur ces médias américains qui refusent toujours la défaite de Donald Trump. Et puis le poteau noir, zone de haute turbulence pour les marins du Vendée Globe.
Votre invité à 7h50, Léa.
Oui, pas un jour sans qu'un laboratoire annonce un nouveau vaccin efficace à 90, 94, 99%. Du coup, on s'y perd un peu. Ces vaccins sont-ils fiables? Quand faudra-t-il se vacciner? Qui devra être prioritaire? Beaucoup, beaucoup de questions à poser ce matin au chef des maladies infectieuses de l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Le professeur Jean-Daniel Lelièvre sera avec nous à 7h50.
À tout à l'heure, Léa.
France Inter.
C'est l'une des questions qui se posent depuis le début de l'épidémie de Covid. Combien de temps est-on immunisé après avoir contracté la maladie? Une équipe de chercheurs californiens de la Joliet Institute for Immunology vient de publier une étude qui montre donc, Daniel Messager, que cette immunité dure plus de 6 mois.
Est-on réellement protégé après avoir contracté la maladie? Et surtout, quelle est la durée de cette immunité? Des chercheurs de l'université de San Diego en Californie ont étudié des échantillons sanguins de 185 anciens malades âgés de 19 à 81 ans. Et 6 mois après, leur organisme avait développé une bonne immunité. Le professeur Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur.
Pour des patients qui ont été infectés il y a plus de 6 mois, eh bien, ils ont aujourd'hui une réponse immunitaire qui est solide, qui ne porte pas simplement sur les anticorps, ce qu'on connaissait, mais également sur les cellules B mémoire qui sécrètent ces anticorps, et puis également sur d'autres cellules qu'on appelle les cellules T, qui elles tuent les cellules infectées, et qui était présente en nombre conséquent chez ces patients.
De plus, il s'agit de patients qui avaient contracté une forme plutôt mineure de la maladie. On ignorait si ceux-là étaient immunisés, alors que ce sont les cas les plus nombreux. C'est aussi une bonne information concernant les vaccins à venir.
Des vaccins pour lesquels on s'interroge sur la qualité de la réponse immunitaire que ces vaccins vont pouvoir susciter. Si l'infection naturelle vous permet d'être protégé si longtemps, on peut espérer que les vaccins auront aussi une efficacité du même ordre.
L'immunité ne concernera peut-être pas tous les anciens malades, on a déjà constaté quelques cas de réinfection, mais pour le moment, ils sont très minoritaires.
Et en ce qui concerne les vaccins, Pfizer a annoncé hier une efficacité à 95% désormais de son vaccin, et c'est le français Delpharm qui produira les vaccins du laboratoire américain. Son usine en Normandie devrait créer plusieurs dizaines d'emplois pour répondre à la demande. Pour l'heure, le nombre de malades hospitalisés en France recule pour le 2e jour d'affilée. Léger recul également du nombre de patients en réanimation. Ils étaient encore 4854 hier. 425 décès ont également été enregistrés au cours des dernières 24 heures. Et depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, des médecins s'inquiètent de l'état de santé des jeunes, notamment des étudiants privés de contact avec des cours en visio et inquiets pour leur avenir. Olivier Véran s'est rendu hier sur une plateforme d'écoute destinée aux 12-25 ans. On l'écoute.
Nous voulons éviter très clairement une troisième vague qui serait une vague de la santé mentale. Cette génération, vous savez, elle connaît aujourd'hui la pandémie, mais elle connaît aussi le risque terroriste. Elle connaît aussi le réchauffement climatique. Elle a connu la crise économique et bancaire de 2008. La vie, quand on la regarde comme ça, elle n'est pas réjouissante, mais le message que je veux porter, que nous voulons porter, c'est aussi un message d'espoir. Ce que nous montrons par notre solidarité aujourd'hui, en luttant contre le virus, en sauvant des vies, en protégeant les hôpitaux et les soignants, ce que nous montrons, c'est une solidité collective, une force sur laquelle nous allons pouvoir nous appuyer pour construire quelque chose de nouveau avec eux, de solide, dans lequel un univers, une France, dans laquelle chacun doit pouvoir trouver sa place.
Le ministre de la Santé et cette plateforme Fil Santé Jeune est joignable gratuitement au 0800 235 236. Des jeunes et des familles qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter des livres via le click and collect mis en place par les libraires. Restent donc les bibliothèques qui elles aussi se mettent au système de réservation via Internet. Les 12 bibliothèques du territoire Est Ensemble en Seine-Saint-Denis tentent ce dispositif depuis une dizaine de jours et à Montreuil, le succès est au rendez-vous. C'est un reportage d'Agira Mohamed.
En une heure à peine, une bonne dizaine de lecteurs se présentent à la porte de la bibliothèque.
Alors Luro, Leslie, il y a 14 réservations, il y en a 3 qui sont disponibles.
Certains ont pris rendez-vous pour retirer leur commande.
Alors aujourd'hui, il doit y en avoir une quarantaine, mais en fait, il y a le double de gens qui viennent sans rendez-vous.
Et pour cela, même s'ils n'ont pas commandé, eh bien, ils peuvent repartir avec des pochettes surprises préparées par l'équipe. À l'intérieur, des livres choisis selon les tranches d'âge ou les thématiques. Estelle, une habituée, est ravie que sa bibliothèque se soit adaptée à ce confinement.
Le service de la bibliothèque, c'est indispensable, vital. La maison avec 2 enfants, c'est vraiment vital. L'achat, c'est cher, un livre, c'est cher. Donc, je consomme plus en bibliothèque qu'en librairie.
Des livres gratuits pour tous sans condition. Les bibliothèques sont un trésor culturel dont on parle peu, regrette Fabrice Chambon. Il dirige toutes celles de Montreuil.
C'est le lieu culturel le plus fréquenté par les Français et fréquenté par la plus grande diversité de Français. Et donc, on a un rôle très important dans la réduction des inégalités d'accès au savoir et à la culture et qui mériterait d'être bien plus mis en avant qu'elles ne le sont. On devrait sans doute mettre les bibliothèques plus à l'honneur.
Encore plus sûrement en Seine-Saint-Denis, le département qui compte seulement 12 librairies indépendantes pour 1 600 000 habitants.
Reportage d'Agira Mohamed. Un Conseil national des imams de France devrait voir le jour à la demande du chef de l'État. Emmanuel Macron a reçu hier soir à l'Élysée les dirigeants du Conseil français du culte musulman. Cette instance sera chargée notamment de donner un agrément aux imams avec le pouvoir de le leur retirer en cas de dérive. L'objectif est de lutter contre l'islam politique et radical et contre les influences étrangères. Le détail dans le journal de 7h30. La direction de Vallourec met en avant un contexte très incertain pour justifier la suppression d'un millier de postes, dont 350 en France. Le fabricant de tubes en acier sans soudure a annoncé un chiffre d'affaires en baisse de 30% au troisième trimestre. Face à la chute des cours de l'or noir, ses principaux clients ont gelé leurs investissements. D'où la fermeture totale de l'usine normande de Déville-les-Rouen. Delphine Simon.
La fermeture de l'usine de Déville-les-Rouen, qui emploie 190 salariés, n'est qu'une demi-surprise pour la CGT. Le site normand tourne au ralenti, trop peu compétitif selon la direction, qui prévoit aussi de supprimer 160 postes ailleurs en France en évitant les départs contraints. En outre, il réduit la voilure en Allemagne et au Brésil. Victime de la crise du Covid, victime de l'effondrement des prix du pétrole, aucune amélioration du marché de l'énergie n'est prévue avant 2022, explique son PDG. Or, le groupe, sauvé en 2016 une première fois après la fermeture des laminoirs, ploie toujours sous une dette insoutenable, plus de 2 milliards d'euros. La solution serait de convertir la moitié de cette dette en capital. Pour la CGT, le Covid n'est qu'un prétexte pour de nouvelles délocalisations hors d'Europe. En 2016, Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, était venu à son secours. L'État actionnaire avait recapitalisé l'entreprise dont il détient 15%. Depuis, la valeur de Vallourec en bourse a perdu près de 90%. Pas sûr qu'il vienne à la rescousse cette fois-ci.
Nouvelle controverse en marge de l'examen du projet de loi sur la sécurité globale. Alors qu'un journaliste dénonçait son interpellation et son placement en garde à vue mardi lors d'incidents devant l'Assemblée entre manifestants et forces de l'ordre, le ministre de l'Intérieur a affirmé que les journalistes devaient se rapprocher des autorités en amont des manifestations pour pouvoir faire leur travail, avant de préciser dans la soirée qu'il n'y avait finalement pas d'obligation.
France Inter, il est 7h09, Agnès, aux États-Unis. Quelques médias font de la résistance.
En refusant toujours de reconnaître la victoire de Joe Biden à l'image de Donald Trump qui n'a toujours pas concédé sa défaite. Les résultats du recomptage en Géorgie sont attendus dans la journée. Quels qu'ils soient, ils ne changeront rien. Avec 306 grands électeurs, Biden dispose d'une avance qui ne peut plus être rattrapée. Ce qu'ont du mal à accepter ces deux chaînes de télé ultra-conservatrices. Correspondance à Washington de Grégory Phillips.
OAN est désormais la chaîne de télévision préférée du président sortant. One America Network a été créée en 2013 par un milliardaire californien. Et Donald Trump en est devenu ces dernières semaines le meilleur promoteur, appelant ses supporters à délaisser Fox News pour cette chaîne hier confidentielle et qui, 16 jours après l'élection, continue d'affirmer que Joe Biden n'a pas gagné.
Comme nous le croyons, le président Trump a encore une chance de gagner.
Devant la Maison-Blanche, on croise Maureen, casquette « Make America Great Again » sur la tête. Hier, fan de Fox, aujourd'hui branchée sur Ohio.
Fox est trop influencé par les autres médias. Il faut qu'il se libère de ça et qu'il dise la vérité à cette nation.
Le réseau Newsmax est sur la même ligne. Élection trop serrée, on ne peut pas donner de résultats. La semaine passée, pour la première fois de son histoire, la petite chaîne ultra-conservatrice a franchi la barre du million de téléspectateurs. Trump, lui, ne décolère pas, accusant sur Twitter Fox News de ne pas l'avoir assez soutenu et d'avoir de manière prématurée annoncé sa défaite, notamment en Arizona. Le président sortant, qui a aussi pour projet de créer sa propre chaîne de télévision, une fois qu'il aura quitté la Maison Blanche, le nom de Trump TV a déjà été déposé. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Les États-Unis où le seuil des 250 000 morts du Covid est désormais dépassé et New York aujourd'hui referme ses écoles publiques. Un petit Frenchie qui a la côte de l'autre côté de l'Atlantique en basket. Le meneur Killian Hayes, âgé de 19 ans, a été choisi en 7e position de la draft 2020 de la NBA par les Détroit Pistons, du jamais vu pour un joueur français. La Ligue des Nations de foot, l'Italie et la Belgique ont rejoint la France et l'Espagne en phase finale. Et puis ça y est, les premiers concurrents du Vendée Globe ont la tête à l'envers. Le leader du Tour du Monde à la voile en solitaire et sans escale, Alex Thompson a passé hier l'Équateur pour entrer dans l'hémisphère sud après avoir traversé le célèbre Poteau Noir, une zone qui met les nerfs des marins à rude épreuve. Jérôme Val.
Son nom scientifique, la zone de convergence intertropicale. Sa principale caractéristique, enquiquiner au maximum les navigateurs qui s'y aventurent. Le Poteau Noir est un passage obligé juste avant l'Équateur.
Un grain du Poteau Noir.
Passage redouté aussi à cause de ses violents coups de tabac comme il y a 4 ans pour Jérémy Bayou.
Bonne chance de bataille. Eh bien, un Poteau Noir, hein. Et putain de nuages.
C'est aussi une zone où les bateaux restent englués à cause de la pétole. Aucun souffle de vent pour Sébastien Destremau lors du précédent Vendée Globe.
Pas un souffle de vent depuis hier soir. Pas un souffle. Rien. On n'avance pas. Comme si on était une île. Bon, je suis en train de m'énerver là, donc je vous laisse.
C'est dans cette partie de l'Atlantique que les masses d'air chaud et humide de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud se rencontrent. Christian Dumas est le météorologue du Vendée Globe.
Quand il y a un grain qui arrive, le vent peut être très violent en avant du grain. Et puis une fois qu'on se retrouve sous ce grain-là, sous le nuage, le vent peut tomber complètement. Et donc là, on peut rester encalminé pendant des heures. Parfois des jours, l'eau est à 30 degrés, il fait très chaud, très humide. Dans les bateaux, c'est encore pire.
L'avant de la flotte a pu passer sans trop d'encombre ce Poteau Noir, mais ce sera plus compliqué pour les concurrents qui arrivent derrière.
Effectivement, au classement ce matin, Alex Thompson est toujours en tête devant Thomas Ruyant et Charlie Dalin. Jean Le Cam est quatrième. Bon vent à tous.
Merci Agnès Soubirand.